Et l'on débute avec le journal d'Anne-Laure Chouin. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. L'actualité ce matin, c'est cette situation chaotique au Royaume-Uni qui se réveille avec ses frontières à nouveau fermées, et ce à cause de la découverte d'une nouvelle souche du virus Covid-19. Nous irons à Londres avec notre correspondant.
L'Union européenne, elle, se prépare à vacciner et elle devrait bientôt donner son autorisation au vaccin Pfizer-BioNTech qui utilise la technologie de l'ARN messager. Nous entendrons le directeur vaccin des laboratoires Pfizer en France dans ce journal.
Nous irons à Marseille également, où Benoît Payan devrait devenir maire à la place de Michel Rubirola. Portrait à venir avec Rosalie Lafarge. Après ce journal, Guillaume.
Eh bien, dans une dizaine de minutes, Anne-Laure Chouin, nous reviendrons sur la question du crédit immobilier avec des règles assouplies.
Alors que l'Europe se prépare à son tour à la vaccination à grande échelle, c'est une variante du coronavirus qui provoque à nouveau la fermeture des frontières avec le Royaume-Uni. La France, le Canada et l'Allemagne, entre autres, ont décidé hier soir d'interdire toute liaison avec l'île britannique où s'est développée très rapidement cette nouvelle souche du virus. Maxence Peignet, vous êtes le correspondant RFI de France Culture à Londres. Bonjour.
Bonjour.
Ce matin, le Royaume-Uni se réveille en situation de crise.
Alors après ce week-end chargé en mauvaises nouvelles, c'est un début de semaine difficile ici pour les Britanniques. Les unes de la presse réagissent bien sûr aux annonces d'hier soir et avec des mots très sombres. L'Europe ferme ses portes à la Grande-Bretagne pour le Times. Les Français n'ont aucune pitié pour le Sun. Le pays est l'homme malade de l'Europe pour le Daily Mirror. C'est le pire Noël et l'agonie va durer des mois pour le Daily Mail. Vous l'avez compris, l'ambiance n'est pas à la fête. Ces fermetures de frontières empêchent de nombreux Européens basés en Grande-Bretagne de rentrer chez eux en cette fin d'année. Mais elle pose aussi et surtout de graves problèmes d'approvisionnement pour le Royaume-Uni à seulement 10 jours du Brexit. Le port de Douvres se retrouve à l'arrêt pendant au moins 48 heures, à une période où il accueille normalement 10 000 camions par jour en provenance de France. Boris Johnson doit donc tenir ce matin une réunion d'urgence avec son cabinet pour établir la réponse de son gouvernement et s'assurer notamment que le pays ne subisse aucune pénurie.
Et donc la raison de cette situation, Maxence, c'est une variante du Covid-19.
Eh bien, il s'agit d'une nouvelle souche qui a émergé dans le sud-est de l'Angleterre. Elle a été découverte la semaine dernière et il semblerait qu'elle soit jusqu'à 70% plus contagieuse selon Boris Johnson. Seule consolation, les services de santé disent n'avoir aucune preuve pour le moment qu'elle soit plus mortelle ou plus résistante au vaccin qui a été déployé ce mois-ci dans le pays.
Maxence Peignet à Londres, merci beaucoup. On ajoute concernant cette variante anglaise du Covid-19 que l'Agence européenne de contrôle des maladies n'exclut pas qu'elle soit présente, y compris hors du Royaume-Uni. L'Italie aurait détecté un premier cas à Rome. L'Union européenne en attendant a fixé à la date du 27 septembre le début de sa campagne de vaccination. Ce lundi, l'Agence européenne du médicament se penchera sur le sort du vaccin Pfizer-BioNTech qui devrait être autorisé dans les deux jours par la Commission. La France pourrait alors lancer les premières injections dès la semaine prochaine en donnant la priorité au personnel de santé et aux résidents des EHPAD, soit 1 million de personnes. Pour autant, la défiance des Français face à ce vaccin reste forte. Elle s'explique, entre autres, par ce nouveau procédé de l'ARN messager, une technologie utilisé par Pfizer mais aussi par Moderna. En très résumé, ce sont comme des copies de molécules chargées de transmettre l'information à nos cellules. Cette technique, sans risque pour la santé, nécessitera surtout d'être bien expliquée. C'est ce que pense en tout cas David Le Poitevin, c'est le directeur de la division vaccins chez Pfizer France. Il est interrogé par Hakim Kasmi.
Ce vaccin a été développé avec toutes les plus grandes exigences en termes de sécurité, de tolérance et d'efficacité. La technologie de l'ARN messager, c'est une technologie qui est connue depuis quand même plus de 10 ans maintenant et qui, aujourd'hui, apporte véritablement beaucoup d'atouts pour répondre de façon très rapide, très efficace, avec une très bonne tolérance à notre besoin de vaccination.
Et sans modifier l'ADN des êtres humains.
C'est aussi un débat qu'il faudra bien avoir, mais c'est surtout un débat qu'on souhaiterait être pris en main par les autorités de santé, puisqu'il y a un devoir, nous avons un devoir d'éducation, un devoir de communication autour de ces vaccins, de l'ensemble des vaccins, et je ne parle pas que du vaccin de Pfizer, et il faut pouvoir, avec des mots très simples, expliquer tout ça. Et effectivement, il n'y a aucune modification génétique de quoi que ce soit avec de l'ARN messager.
le vaccin contre le coronavirus. Il en sera question avec vos invités ce matin, Guillaume. Mais avant la vaccination, le dépistage reste l'un des piliers de la lutte contre la pandémie. Toute cette semaine, à 7h25, le reportage de la rédaction reviendra sur cette année d'épidémie mondiale. Et ce lundi, Diane Berger fait le point sur une pratique inconnue de notre assurance maladie française jusqu'en 2020, le traçage des malades. Elle a dû s'y mettre au mois de mai, non sans difficulté. Écoutez Juliette Châtelut, responsable du contact tracing, c'est comme ça qu'on dit, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne.
Aujourd'hui, on est à peu près sur 200 à 300 patients positifs chaque jour à contacter et on a à peu près entre 400 et 500 cas contacts à contacter également. Pour vous donner un peu un ordre de grandeur, quand on était en période de pic épidémique, donc nous c'était vraiment voilà, toute fin octobre, début novembre, on avait à peu près 1000 patients zéro, 5 fois plus qu'actuellement, et on était autour de 1500 cas contacts. L'activité avait été très importante et là, elle a fortement diminué depuis à peu près un mois. Et là, en revanche, ce qu'on constate, c'est que c'est en train de repartir un petit peu, comme le contexte général au niveau national. On a une remontée progressive du nombre de patients zéro et de cas contacts à contacter chaque jour. Ça fait en effet une activité qui a été très importante et surtout, en fait, c'est la montée en charge rapide de l'activité qui a été particulièrement difficile et qu'on a dû organiser pour pouvoir conserver notre activité dans le contact auprès des patients zéro et des cas contacts. Donc, on a dû mobiliser un nombre important de collaborateurs pour passer ces appels. On a formé des nouveaux opérateurs avec des personnes donc, qui ont été spécifiquement recrutées pour réaliser ces appels auprès des patients zéro et des cas contacts.
2020, année du traçage des malades. Ce sera le reportage de la rédaction tout à l'heure à 7h25.
7h07 sur France Culture, la suite du journal d'Anne-Laure Chouin. Il pourrait devenir le plus jeune maire de Marseille à 42 ans. Benoît Payan va-t-il prendre la suite de Michel Rubirola?
On le saura aujourd'hui, jour de vote du conseil municipal après la démission la semaine dernière de celle qui ne sera pas restée très longtemps première femme maire de Marseille. Michel Rubirola, démissionnaire notamment pour raison de santé, souhaiterait inverser les rôles, devenir première adjointe et laisser la place de maire à son premier adjoint. Mais c'est au conseil municipal d'en décider, donc sauf surprise, il devrait valider cette proposition. L'occasion de revenir sur le profil de cet habitué de la politique marseillaise qu'est Benoît Payan. Un portrait signé Rosalie Lafarge.
Maire de Marseille, il en rêve, Benoît Payan, depuis longtemps. Et cette élection municipale, il aurait bien aimé en faire la sienne dès le départ. Mais son étiquette socialiste aura raison de sa candidature. L'ambitieux divise au sein du collectif d'Union des Gauches à Marseille. Et en janvier, dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, il se range derrière celle qui sera finalement élue.
Je refuse de servir de prétexte à la division. C'est parce que je sais que ma responsabilité est grande que j'ai pris la décision de ne pas me présenter comme tête de liste et de soutenir Michel Rubirola.
Ensemble, ils gagneront, ensemble, ils gouverneront. Jamais très loin de la candidate pendant la campagne, il reste omniprésent après son élection, jusqu'à faire dire à certains que c'est lui, en réalité, qui est aux commandes. Cet ancien du mouvement des jeunes socialistes connaît tous les rouages de la politique marseillaise. Après avoir passé du temps dans l'ombre des barons socialistes locaux, il prend la lumière en 2014. Dans l'opposition, lors du dernier mandat de Jean-Claude Gaudin, il se fait régulièrement remarquer en conseil municipal. La politique, les mots, les médias, il adore ça, Benoît Payan, contrairement à Michel Rubirola. Et contrairement aussi à cette femme de la société civile, il est lui un homme d'appareil, même s'il a pris ses distances avec le système Guérini, l'ancien président PS du Conseil général des Bouches-du-Rhône. Benoît Payan en est un héritier. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'a pas réussi à rassembler derrière lui pour l'élection. Mais l'impossible d'il y a encore quelques mois a toutes les chances de devenir la réalité aujourd'hui.
Au Mexique, en cette fin d'année, les autorités font le décompte des morts du Covid. Il aurait dépassé le seuil des 120 000 morts. Mais un autre bilan, tout aussi macabre, scandalise les associations qui luttent pour les droits de l'homme, celui des morts liés à la grande criminalité, avec plus de 32 000 morts violentes. Le Mexique se rapproche de son record historique atteint en 2019. Dernière victime en date, l'ex-gouverneur de l'État du Jalisco, Aristóteles Sandoval, assassiné vendredi dans cette région occidentale du pays. Un nouvel assassinat qui n'a presque pas provoqué de surprise et pourtant c'était un homme politique de premier plan, preuve du degré de violence auquel cette région s'est habituée. Sur place, le récit de notre correspondante Emmanuelle Stills.
Aristóteles Sandoval était l'ex-gouverneur de l'État du Jalisco, l'un des plus dangereux du Mexique. Il a été assassiné vendredi dans les toilettes d'un restaurant de Puerto Vallarta, une station balnéaire de la côte Pacifique. À l'extérieur, une dizaine d'hommes armés ont tiré sur les gardes du corps de l'ex-gouverneur pour les empêcher de lui porter secours. Une attaque signée par le crime organisé. Entre 2012 et 2018, Le mandat de Sandoval avait été marqué par l'ascension fulgurante du cartel Jalisco Nouvelle Génération. Les autorités ont d'ailleurs attribué l'assassinat à ce cartel, devenu le plus puissant du pays. Il y a 6 mois, il avait déjà attaqué le chef de la police de Mexico, tuant plusieurs personnes et blessant sa cible. Capable de mettre les forces de sécurité mexicaines en déroute, comme il l'a montré à plusieurs reprises, ce cartel a étendu sa domination à une grande partie du territoire national. Les habitants du Jalisco ne sont plus surpris de voir ces commandos bloquer les routes et provoquer des fusillades en plein jour. La société a en quelque sorte assimilé ce régime de terreur, comme le montre un incident survenu après l'assassinat du gouverneur. Les employés du restaurant ont nettoyé la scène de crime de fond en comble et fait disparaître les caméras de sécurité afin de ne laisser aucune trace du passage des tueurs.
Et on termine ce journal avec la voix d'un écrivain célèbre, souvent évoqué pour le prix Nobel de littérature, jamais lauréat pour l'instant. La balade de l'impossible, Kafka sur le rivage ou encore un Q84, vous aurez certainement deviné le romancier japonais Haruki Murakami, dont les livres sont traduits dans plus de 50 langues. Un écrivain rare dans les médias qui sera ce soir pourtant l'invité d'Arnaud Laporte dans Affaires culturelles. Notre correspondante au Japon, Karine Nishimura, l'a rencontré pour nous à Tokyo. Écoutez-le évoquer notamment cette année marquée par le Covid-19.
Je travaille seul à la maison et ma vie n'a pas beaucoup changé, mais l'ambiance tout autour de moi est très différente, donc ça m'affecte. Tous les arts sont nécessaires dans ces périodes, mais c'est formidable de lire si on en a plus le temps. Ce qui est important, c'est peut-être justement de lire des récits, des histoires profondes. C'est aussi le cas ailleurs dans le monde, mais les réseaux sociaux sont partout et les phrases sont devenues des phrases de type réseaux sociaux ainsi que la communication. Ce n'est pas la langue avec laquelle j'écris des histoires. Je n'ai certes pas la prétention de vaincre ce phénomène, mais je pense que je dois montrer qu'il existe une possibilité différente et plus forte d'écrire. Je le sens vraiment.
Haruki Murakami, que vous entendrez en longueur ce soir à 19h avec Arnaud Laporte. Un mot rapide du temps de ce lundi 21 décembre. Il fera doux, mais gris et surtout la pluie va gagner toutes les régions petit à petit. Température douce, on l'a dit, comptée cet après-midi de 10 à 16 degrés d'est en ouest.
Merci Anne-Laure Chouin. À 7h25, le reportage de la rédaction retour toute cette semaine sur les effets bien particuliers du Covid en France, avec ce matin le traçage des malades, et dans quelques secondes, on va évoquer l'assouplissement des crédits immobiliers.